Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique, ou PIDC, et plus particulièrement ses diagnostics différentiels. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Marion Mazingue. Docteur Mazingue, bonjour.
Bonjour.
Docteur Mazingue, vous êtes neurologue, praticien hospitalier au sein du service de neuromyologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris et praticien clinicien au sein du centre de référence des maladies neuromusculaires d'Île-de-France. Alors, docteur Mazingue, nous abordons aujourd'hui les diagnostics différentiels des PIDC. Quels sont les symptômes ou les éléments du bilan étiologique qui sont rencontrés dans les PIDC et qui peuvent également être présents dans d'autres maladies neurologiques ?
La plupart des symptômes en fait, des PIDC peuvent être retrouvés dans d'autres maladies neurologiques et en particulier dans d'autres neuropathies, puisque c'est essentiellement là-dessus qu'on va discuter. Le déficit sensitif ou moteur progressif, qui peut être symétrique, asymétrique, peut se retrouver dans tout type de neuropathie. Dans certaines formes de PIDC où il y a des troubles de la déglutition, des troubles oculomoteurs, ça peut également être mimé par d'autres maladies neurologiques. Donc, globalement, il n'y a aucun signe clinique qui n'appartient que à la PIDC. Et sur le plan des examens complémentaires et des éléments du bilan étiologique, les éléments cardinaux et premiers du bilan de PIDC qui sont sur l'électromyogramme des signes de déminimisation, des blocs de conduction et à la ponction lombaire l'hyperprotéinurachie sont aussi des éléments qu'on peut retrouver dans certains diagnostics de différentiel de PIDC, raison pour laquelle c'est parfois difficile de les faire.
Alors justement, en pratique clinique, quels sont les diagnostics différentiels les plus courants d'une PIDC ?
Je pense qu'on peut les classer en différentes catégories. La première, c'est les autres neuropathies inflammatoires. Il y en a une qui est connue maintenant depuis plusieurs années, qu'on connaît bien, qui est la neuropathie motrice à bloc de conduction, qui est une forme de PIDC exclusivement motrice et multifocale, avec la présence notamment d'antiganglioside dans le sang qui permet de poser le diagnostic différentiel de manière assez facile, avec également les anomalies électromyogrammes qui sont typiques. Et puis plus récemment, on a décrit les neuropathies inflammatoires à IgG4 avec des anticorps comme les antineurofacines ou les anticontactines qui se présentent comme des PIDC avec certaines particularités cliniques mais qui ne sont pas toujours présentes et qui par contre ont la caractéristique de mal répondre au traitement standard et classique des PIDC. Et ces neuropathies, donc, on en a vu la description depuis 2-3 ans. Et maintenant, quand on reprend la plupart de nos patients qui étaient étiquetés PIDC répondant mal au traitement, on s'aperçoit qu'en fait, on retrouve chez eux ces anticorps, ce qui est très important dans la pratique clinique, puisque ça nous donne un argument pour switcher de thérapeutique et donc être plus efficace sur le traitement. Dans les autres neuropathies qui peuvent faire diagnostic différentiel de PIDC, il y a les neuropathies qui sont satellites des gammapathies. Là encore, la plus connue, c'est la neuropathie anti-MAG, qui est satellite d'une IgM. Là encore, diagnostic qui peut se faire sur une prise de sang avec l'identification de ces anti-MAG dans le sang. Et puis, certaines caractéristiques sur l'EMG avec une déminimisation qui est plus distale que dans une PIDC classique. Une autre maladie satellite d'une gammapathie, c'est le POEMS. Et là, pareil, on peut avoir une neuropathie qu'on dit classiquement axono-démyélinisante ou intermédiaire, avec des éléments de démyélinisation et des éléments de neuropathie axonale. Et le diagnostic est aidé par les autres signes cliniques de ce syndrome, comme les organomégalies, des anomalies cutanées, et par l'augmentation du VEGF dans le sang. Parmi les autres neuropathies qui peuvent mimer des PIDC, il y en a une dont on parle beaucoup actuellement parce qu'elle a explosé ces derniers temps, c'est la neuropathie qui est due à l'intoxication au protoxyde d'azote, qui est une drogue qui est utilisée par beaucoup de jeunes en ce moment, qui se prend en bonbonne, et sur les quantités astronomiques que les jeunes consomment de protoxyde d'azote, ils font en fait un déficit en B12, qui peut donner des atteintes de la moelle, comme ce qu'on connaît classiquement, mais également des neuropathies. Et dans ces neuropathies, il y en a qui miment vraiment très fort une PIDC. Et là, c'est vraiment l'anamnèse, le mode d'installation qui permet de faire le diagnostic. Et c'est une question qu'il faut penser maintenant à poser systématiquement à des jeunes qui ont une neuropathie d'allure inflammatoire, démyélinisante, assez brutale, très sévère, Il ne l'avoue pas forcément spontanément, mais c'est une cause qui, sur l'année écoulée, a explosé en termes d'épidémiologie. Les autres neuropathies qu'il est important de connaître et qui peuvent mimer des PIDC, c'est les neuropathies amyloïdes. Donc, soit les amyloses acquises, l'amylose AL par exemple, qui peuvent être satellites de maladies hématologiques elles aussi, soit l'amylose héréditaire par mutation dans le gène de la TTR. Et il y a beaucoup de cas qui ont été décrits dans la littérature de neuropathies démyélinisantes, interprétées au début comme des PIDC, traitées comme des PIDC qui répondent mal. Et en fait, on met en évidence la présence d'amylose dans les prélèvements tissulaires, qui peuvent être les biopsies des glandes salivaires accessoires, la biopsie de graisse abdominale, voire la biopsie neuromusculaire en dernier recours. Là aussi, il y a une sanction thérapeutique très importante à faire le diagnostic différentiel, puisque le traitement de l'amylose secondaire à une pathologie hématologique, ça va être de la chimiothérapie. Et puis maintenant, dans les amyloses héréditaires TTR, il y a de nouveaux traitements qui émergent, qui sont extrêmement efficaces, très prometteurs, et qui permettent notamment de faire une protection cardiaque, puisque l'amylose a aussi une atteinte cardiaque. Avant-dernier type de neuropathie qui peut parfois mimer une PIDC, c'est quand il y a une infiltration radiculaire, en particulier là aussi satellite d'hémopathie, on parle de neurolymphomatose. Là, l'élément diagnostique qui va être très important, c'est l'IRM lombaire ou radiculaire ou plexique qui va montrer une prise de contraste et une infiltration des racines. Et ça, sur l'électromyogramme, ça peut mimer une atteinte radiculaire comme la polyradiculonévrite inflammatoire chronique. Et puis enfin, le dernier grand type de diagnostic différentiel auquel il faut penser parce que auparavant leur diagnostic était réservé vraiment à des niches et à des centres de référence experts, mais il devient de plus en plus accessible, c'est les neuropathies héréditaires, les maladies de Charcot-Marie-Tooth. Il y en a un certain nombre qui peuvent donner de la démyélinisation, ça bien sûr c'est connu, mais également des blocs de conduction dans des formes extrêmement piégeuses. Les signes d'alerte dans ces cas-là, on est plus sur de la clinique, c'est un début en général un peu plus précoce, une histoire familiale, des pieds creux, et puis bien sûr dans l'évolution, l'absence de réponse au traitement.
Et pour éliminer un diagnostic différentiel de PIDC, quels sont les examens cliniques ou complémentaires qu'on peut effectuer ?
Donc, dans un premier temps, je pense que c'est important, quand on a un doute diagnostique, et en particulier au cours de l'évolution d'une PIDC qui répondrait par exemple pas très bien à un traitement, il ne faut pas hésiter à répéter l'électromyogramme, voir comment il évolue, s'il évolue de la manière attendue pour une PIDC, ou s'il reste stable ou il s'aggrave, auquel cas c'est un signe pour nous de devoir remettre le diagnostic en question. Puis dans le bilan, je dirais, de deuxième intention ou de recherche du diagnostic différentiel, il y a certains éléments biologiques qu'il faut faire. Le dosage de l'homocystéine de la B12, l'immunoélectrophorèse des protéines sériques, les chaînes légères sanguines et urinaires, le VEGF, les antiganglioside, les antimag ou les antineurofacines et contactine dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de les faire tous d'emblée, mais je pense que c'est des éléments biologiques qui donnent une réponse assez rapide et qu'il ne faut pas hésiter à demander si on a le moindre doute. Dans la ponction lombaire, qui est souvent faite de toute façon pour une PIDC, les signes qui doivent faire reconsidérer le diagnostic, c'est bien entendu s'il y a une méningite et s'il y a des anomalies sur l'immunophénotypage du LCR et le dosage des interleukines IL-6, IL-10 qui sont plus en faveur d'une neuropathie qui serait satellite d'une hémopathie. Parmi les examens qui peuvent aussi être utiles, il y a l'IRM plexique qui est de plus en plus accessible et sur lequel certains neuroradiologues se forment de manière vraiment experte. Et en les multipliant, on s'aperçoit qu'on arrive quand même à trouver parfois des petits indices sur l'IRM plexique qui peuvent nous dire que c'est un petit peu atypique pour une PIDC classique. C'est encore des choses qui sont en rodage, je dirais, mais l'intérêt de demander cet IRM plexique, c'est aussi justement d'augmenter notre expertise en termes de diagnostic sur l'imagerie. Et puis enfin, sur des examens qui sont un petit peu plus orientés avec une idée derrière la tête, je dirais, il y a la biopsie des glandes salivaires accessoires ou la graisse abdominale pour le diagnostic de l'amylose dont j'ai parlé tout à l'heure. Le diagnostic de l'amylose héréditaire, il se fait par le séquençage du gène TTR qui devient, à mon sens, vraiment un élément central du bilan de seconde intention d'une neuropathie quelle qu'elle soit. le panel des neuropathies héréditaires, des CMT, quand on est en centre hospitalier universitaire ou qu'on peut adresser son patient en centre hospitalier universitaire, peut être intéressant à faire pour une BIDC qui semble atypique, sachant qu'on travaille actuellement avec les centres de génétique pour essayer de faire un mini panel, un peu diagnostic différentiel des BIDC qui traiterait cette dizaine de gènes qu'on connaît pour pouvoir donner des neuropathies qui leur ressemblent fortement. Et puis enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, même si c'est un examen qu'on essaye de limiter parce qu'il est invasif, mais qui peut parfois vraiment nous rendre service, c'est la biopsie neuromusculaire, qui certes sacrifie un nerf, donc ça demande une neuropathie en général assez sévère avec un nerf qui est plus stimulable à l'électromyogramme et qui permet que les séquelles sensitives laissées par le geste seront moindres par rapport à la clinique du patient de base. Mais cette biopsie neuromusculaire, elle peut nous donner des informations vraiment intéressantes. Je pense notamment à l'amylose avec la coloration rouge Congo qui met en évidence les dépôts amyloïdes, mais aussi aux autres diagnostics que j'ai évoqués tout à l'heure.
Alors, une fois que ce diagnostic de PIDC a été établi, docteur Mazingue, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il doit être mis en question au cours du suivi du patient ?
Oui, bien sûr, je pense que ça, c'est valable de toute façon pour l'ensemble de la médecine. Un diagnostic, il ne faut jamais être complètement arc-bouté dessus. Je pense que si l'évolution du patient n'est pas typique, il faut pouvoir se remettre en question. Notamment si mauvaise réponse au traitement classique, mais également si on a quelques signes cliniques qui sortent un petit peu du tableau classique. Pour la PIDC, ça pourrait par exemple être des douleurs très importantes. La PIDC n'est pas une maladie qui est extrêmement douloureuse dans sa forme classique. Il pourrait aussi y avoir comme signe une altération de l'état général avec des pertes de poids, une anorexie, une asthénie, des adénopathies. Une atteinte cardiaque, tout ça sont des signes qui sont pas ou peu typiques d'une PIDC et qui doivent faire reconsidérer le diagnostic de manière précoce. Et puis dans les autres symptômes, entre guillemets, il y a aussi les éléments d'anamnèse, notamment l'histoire familiale. C'est sûr que s'il y a une neuropathie dans la famille, ça va nous faire tilter et je pense qu'il sera important d'évoquer une neuropathie héréditaire. Ça peut aussi être le cas s'il y a une atteinte cardiaque dans la famille pour l'amylose. Donc tout ça sont des questions qu'il faut poser idéalement dans la première consultation. Parfois on n'a pas le temps de tout faire, mais en tout cas qu'il faut poser si jamais la PIDC n'évolue pas telle qu'on l'attend.
Et pour conclure notre entretien, docteur Mazingue, à qui adresser les patients en cas de doute ?
Il faut les adresser au centre de référence neuromusculaire ou au CHU avec un service de neurologie avec une expertise périphérique le plus proche. Et puis, il y a aussi, a été mis en place récemment par la filière neuromusculaire, par Philnemus, une réunion pluridisciplinaire pour les PIDC atypiques, justement, pour discuter de manière collégiale de ces cas un petit peu difficiles où on se pose la question soit d'un switch de traitement, soit effectivement d'un diagnostic différentiel. Et ça, c'est une discussion collégiale qui permet vraiment d'avancer parce que quand l'un n'a pas l'idée, l'autre peut l'avoir. Et puis surtout, c'est aussi plus accessible maintenant grâce à la multiplication des réunions en distanciel. Ça permet à beaucoup de gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer de pouvoir discuter entre experts.
Eh bien, merci mille fois, docteur Mazingue, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la PIDC. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.